Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'Église catholique fête cette année un anniversaire passé presque inaperçu, celui de la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Le 18 juillet 1870, à l'occasion du premier concile œcuménique, était en effet proclamé ce dogme qui affirme que la parole d'un pape peut, dans certaines circonstances, avoir un caractère infaillible. Infaillible, le mot révulse certains quand il réjouit d'autres, un mot qui dit la difficulté de notre époque à accepter qu'une vérité puisse exister, mais aussi, du côté des catholiques, l'idée parfois confuse que l'on se fait de la vérité. Un anniversaire qui est l'occasion d'un voyage à travers l'histoire de l'Église et de ses racines les plus profondes. Qu'est-ce que l'infaillibilité pontificale ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, vaste sujet, avec vous pour en premier de cordée pour nous emmener sur les cimes de ce sujet. Grégory Wembe, vous êtes prêtre, vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse et vous avez publié un livre intitulé « Quelle infaillibilité pour l'Église ?» paru aux éditions Teki. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci de prendre le temps de faire un détour par nos studios. Alors c'est un collègue qui m'a tiré par la manche, qui m'a dit « Mais dis donc, tu sais que c'est l'anniversaire de la proclamation de ce dogme. Donc ça peut paraître un peu technique ou un peu fou de parler de ça. Mais je me suis dit que c'était un sujet qui, comme il faisait bondir parfois de part et d'autre, il pouvait être opportun de le préciser. Alors je commencerai en citant, j'ai trouvé un article du journal Le Monde. Il y a 150 ans, le pape devenait infaillible avec une photo, comme par hasard, de Benoît XVI, qui là n'a pas l'air très aimable. Avec ce sous-titre quand même, le 18 juillet 1870 était proclamé le dogme de l'infaillibilité pontificale, selon lequel, le pape exprime infailliblement ce qui est vrai, mais la journaliste ajoutait quand même dans des conditions toutefois très encadrées. Grégory Wembe, si on doit poser cela au début, même le journal Le Monde laisse entendre que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Voilà, dites-nous peut-être pour commencer, qu'est-ce que cette infaillibilité ?
En réalité, ce mot d'infaillibilité est d'abord une caractéristique qui vaut pour Dieu et Dieu seul. Et la question est de savoir comment Dieu permet à son Église d'être infaillible ou d'engager l'infaillibilité de Dieu. Mais au point de départ, c'est Dieu seul est infaillible et l'Église peut, dans certains cas, engager ou se prévaloir de cette infaillibilité. Et ensuite, le pape, dans certains cas, peut engager l'infaillibilité de l'Église. Donc, en réalité, l'infaillibilité, c'est ce qu'on appelle un charisme. Un charisme, c'est quoi ? C'est un don de l'Esprit-Saint, un don de la grâce, c'est cette conviction profonde que l'Église est un peuple assisté par l'Esprit-Saint au cours de sa vie et de son histoire, et que le Saint-Esprit la guide, notamment dans l'enseignement du dépôt de la foi. Et ce charisme, ce don spécial qui vient de la grâce, de la charis, de cette action de l'Esprit-Saint en elle, fait de l'Église le jardin où fleurit l'Esprit, si vous voulez. Et ainsi, étant un charisme, l'infaillibilité offre à l'Église et à ses membres une garantie de ne pas tomber dans la foi, dans les choses de la foi, dans l'enseignement de la foi, dans la transmission et la conservation de la foi, ce dépôt de la foi constitué par les apôtres, au centre duquel il y a la proclamation de la résurrection du Christ.
Alors, on va détailler ce que vous venez de dire, qui permet de plus mieux comprendre. On entend que, c'est-à-dire, ce n'est pas la personne du pape qui est infaillible, ni toutes ses paroles, mais que c'est bien plus compliqué que cela. Peut-être qu'on peut faire un petit détour historique, parce que donc ça a été proclamé à l'occasion donc du Concile Vatican I, qui d'ailleurs n'est pas allé jusqu'au bout pour différentes raisons historiques. Le Concile Vatican I, premier concile œcuménique. Vous pouvez nous redire un petit peu le contexte de ce concile.
Alors, le concile Vatican I, il est convoqué à une époque à la fois de grande effervescence ecclésiale, de grande renaissance de l'Église, un moment de grand dynamisme de l'Église, dynamisme missionnaire. C'est le moment où se développent toutes les grandes intuitions fondamentales, notamment la préoccupation sociale de l'Église. Mais c'est aussi un siècle de grands bouleversements politiques. et notamment, on va dire, d'effondrement de la position spéciale qu'avait l'Église sur le plan politique et social en Europe. Donc, c'est un concile qui, à la fois, va approfondir ce que l'Église a toujours cru, mais va en même temps répondre aux défis du temps, et donc va se situer, si vous voulez, dans un contexte qui est éminemment défensif.
Alors défensif, y compris donc pour les États pontificaux, on peut peut-être rappeler ça, c'est-à-dire que les troupes italiennes ne sont pas loin de Rome à l'époque.
Elles sont aux portes de Rome, et Rome ne tient que par la présence des troupes françaises, des troupes de l'empereur Napoléon III. Et lorsque d'ailleurs l'Empire va être défait par l'Allemagne de Bismarck en 1870, et que les troupes françaises vont quitter Rome, eh bien les troupes italiennes vont s'emparer de Rome, et le concile va de facto être arrêté. Donc c'est un concile qui a lieu en situation de guerre, et en situation d'effondrement politique, où l'indépendance du pape est à nouveau remise en cause. Elle l'avait déjà été par les républicains en 1798, lors de la proclamation de la République romaine. Mais disons, la papauté avait essayé de restaurer ses états pontificaux au début du XIXe siècle. Et là, on voit l'échec de toute la politique de Pie IX pour restaurer les états pontificaux. Donc il y a un contexte politique extrêmement difficile qui explique certainement cette volonté d'affirmer l'autorité et la légitimité du pouvoir pontifical.
Alors justement, on va y venir, juste je reprends ce que vous dites parce que tout le monde n'est pas un grand familier de l'histoire. C'est donc les troupes italiennes donc sont aux portes de Rome. Mmh. Elles tiennent donc par la présence des troupes françaises, va être déclarée la guerre franco-prussienne, donc les troupes françaises vont repartir en France. Et donc à l'occasion de ce concile, premier concile œcuménique, eh ben Rome va être en fait envahie, et le pouvoir du pape et les états pontificaux de facto disparaissent.
Le concile est interrompu, c'est-à-dire c'est un concile qui est interrompu, et vous savez, on va essayer de le reprendre par la suite, et puis au bout d'un certain temps, on va décider qu'on ne peut pas reprendre le concile, mais on le clôt définitivement, et on a l'idée d'un nouveau concile. Mais c'est un concile qui est interrompu, qui n'est pas clos en réalité, qui est interrompu, et finalement, seulement deux documents vont être discutés et vont être promulgués. Mais en réalité, le concile prévoyait énormément de textes à promulguer. Et donc ce côté parfois un peu déséquilibré est lié à cette interruption du concile.
Alors,
et le pape se considère comme prisonnier dans son palais du Vatican, enfin dans le territoire du Vatican.
Donc ce qu'on entend, c'est donc que la proclamation donc de l'infaillibilité pontificale, pour continuer à faire cette dégression historique,
oui,
donc dans Pastor Aeternus, j'ai oui. oublié de le dire, donc 18 oui. juillet 1870 par oui. le pape Pie IX, qui oui. est donc le pape évidemment de l'époque.
Oui.
C'est donc il y a un effondrement quelque part du pouvoir temporel de l'Église, donc l'Église oui. aurait voulu quelque part réaffirmer son pouvoir spirituel ou son autorité spirituelle ?
Certainement, oui, certainement. Mais bien plus, il y a toute une réflexion sur la notion de magistère au XIXe siècle et en particulier sous Pie IX. Donc, il y a des éléments préparatoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette question de l'infaillibilité pontificale, elle n'est pas dans le programme du Concile, elle n'est pas dans les schémas préparatoires. C'est une question qui est mise sur le tapis par un groupe qu'on appelle les maximalistes et qui veulent imposer cette définition. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la définition finale est un compromis trouvé avec ceux qui ne sont pas maximalistes, qu'on appelle les minimalistes. Et donc, c'est une définition de compromis. Donc, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'elle n'est pas prévue au départ. Ensuite, Pie IX, encourage discrètement, officieusement, ceux qui l'introduisent, les pères conciliaires qui introduisent cette idée. Et cette idée va déclencher d'énormes débats pendant le concile, pendant l'été, donc puisque vous parlez de juillet, donc au mois de juin, mai-juin. Et ça va être une définition âprement débattue. Et c'est la raison pour laquelle on aboutit à cette définition extrêmement limitative de l'infaillibilité pontificale. C'est une définition extrêmement contraignante, en réalité, extrêmement limitative.
Alors on peut la citer, par l'assistance divine à lui promise, là on parle du pape, en la
oui.
personne de Saint-Pierre,
oui.
de cette infaillibilité dont le divin rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, donc dans
c'est
certaines
ce que
situations,
je disais au tout début, voilà.
dans certaines situations, oui. donc cette infaillibilité peut être engagée. Alors avant qu'on fasse une première pause, est-ce qu'on peut prendre un exemple Quand même le journal Le Monde donc dit qu'il y a des conditions très encadrées, qu'est-ce qu'il faut ? J'ai cru comprendre qu'il fallait que le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire en fait il faut, ça veut dire quoi ?
Sous la forme d'une déclaration solennelle. Et qu'il enseigne en tant que docteur universel de l'Église, c'est-à-dire du siège de Pierre, en tant que successeur de Pierre, ex cathedra. Véritablement, il faut que ce soit un enseignement officiel, solennel, explicite, avec des formules, nous enseignons tel dogme. Enfin, c'est quelque chose qui doit manifester la volonté positive d'engager l'infaillibilité de l'Église.
Alors, exemple, est-ce que cette infaillibilité a été engagée de multiples fois, comme parfois on l'imagine, ou pas depuis...
Depuis la définition, une fois, et avant la définition, une fois. Le dogme de l'Immaculée Conception a été défini, proclamé par le pape seul.
Donc rappelez en un mot ce que c'est, peut-être, pour ceux qui, par hasard, nous...
Marie est née conçue sans péché, donc l'exemption du péché originel pour la Vierge Marie. Et le deuxième exemple, qui est lui après la définition de l'infaillibilité pontificale, c'est le dogme de l'Assomption en 1950,
Pie XII,
qui proclame le dogme de l'Assomption. Mais avec cette nuance que les deux proclamations, l'Immaculée Conception et l'Assomption, donc Marie est montée au ciel, avec l'intégrité de son corps, sans corruption de son corps, donc ces deux dogmes ont été précédés l'un et l'autre de deux encycliques, de deux lettres apostoliques, dans lesquelles le pape disait qu'il suivait en cela l'avis de l'ensemble des évêques et la foi commune du peuple de Dieu. Donc, si vous voulez, même quand le pape définit seul, il ne se présente pas comme la seule raison d'être de cette vérité. Il définit seul une vérité qui est présente et qui est partagée par tous. C'est-à-dire que le pape avait consulté l'ensemble des évêques auparavant. Mais fondamentalement, la définition n'a pas été faite pendant un concile. Elle a été faite par le pape seul. En cela, il a engagé l'infaillibilité. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement limité.
On va prendre le temps de davantage comprendre, puisque derrière ça, on entend bien que c'est, on va dire, la richesse du trésor de l'Église qui est mise en avant, contrairement peut-être à l'idée qu'on pourrait s'en faire de savoir si quelqu'un a raison. Et on va prendre le temps de parler de ça avec vous après cette première pause musicale. Je rappelle le titre de votre livre, « Quelle infaillibilité pour l'Église » paru aux éditions Teki.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Qu'est-ce que l'infaillibilité pontificale? Point d'interrogation, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce mercredi matin, avec comme invité Grégory Wembe, prêtre et vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse, et auteur pour rappel d'un ouvrage intitulé « Qu'est l'infaillibilité pour l'Église ?» paru aux éditions Teki. Alors on s'est dit qu'on allait recommencer en donnant une autre citation qui proclame donc cette infaillibilité, et puis revenir un petit peu sur les deux occasions de circonstances dans lesquelles cette prérogative a été utilisée. Donc, Pastor Aeternus, juillet 1870, la déclaration est la suivante, en partie, le pontife, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être admise par toute l'Église, jouie par l'assistance divine à lui promise dans la personne de Saint-Pierre. On pourrait donner la citation pour le proclamation du dogme de l'Assomption, peut-être que je le ferai après. Vous vouliez apporter encore quelques précisions donc à propos du dogme de l'Assomption comme de l'Immaculée Conception. Le pape ne vient pas dire d'abord non, mais dire un grand oui de l'Église, à vous entendre, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que dans ces deux cas, que ce soit un dogme qui précède, hein, puisque le dogme de l'Immaculée précède la définition de l'infaillibilité pontificale, le dogme de l'infaillibilité pontificale, mais dans les deux cas, que ce soit le mystère de l'Immaculée Conception ou le mystère de l'Assomption, ces deux vérités révélées sont proclamées comme des voies de contemplation de l'Église, comme des voies de contemplation d'approfondissement du mystère de l'Église et de la vie chrétienne, comme des chemins d'approfondissement du baptême. Ce ne sont pas des réponses à des hérésies, ce sont davantage des dogmes contemplatifs, si vous voulez, hein, qui offrent aux chrétiens un regard sur la profondeur de sa foi. Il ne s'agit pas là de répondre à des hérésies. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté des papes et du magistère pontifical de ne pas simplement venir dirimer un conflit, résoudre un conflit, trancher une question disputée ou répondre à une hérésie ou au développement d'une dissidence doctrinale dans l'Église, mais aussi, à travers l'enseignement, de donner une voie d'approfondissement, une voie de contemplation à toute l'Église. Et ces deux dogmes ont été des sources de ferveur extraordinaire dans la vie de l'Église, hein, et ont été acclamés et ont contribué énormément au prestige du pape au XXe siècle en réalité, parce qu'il y avait là une espèce de consonance, de syntonie merveilleuse entre le pape, les évêques et le peuple de Dieu.
Alors ça, j'aimerais que vous y reveniez, parce que si on vous entend bien, donc derrière l'infaillibilité pontificale, en fait, il y a, donc si j'ai bien compris, le fait que Dieu ne peut pas tromper ou se tromper d'une certaine manière, mais que cette prérogative qui appartient au pape, elle appartient aussi, à vous entendre, à la fois en fait au peuple de Dieu et à la fois aux évêques.
Oui, c'est la
garantie. Vous pouvez revenir dessus peut-être?
Oui, c'est la garantie qui est donnée à la foi et qui est donnée à l'acte de foi lui-même, au don que Dieu nous donne de croire en lui. Et donc c'est d'abord une caractéristique accordée à l'Église comme peuple, comme dit saint Augustin, du pape au dernier des fidèles. Et c'est non pas comme individu, mais dans la communion que nous formons, que nous est donnée cette garantie d'infaillibilité.
Vous prenez dans votre livre un autre exemple, c'est la proclamation du kérigme. Donc les apôtres, oui, à un moment de la résurrection, qui proclament que le Christ est ressuscité.
Oui.
Ça pourrait ressembler à une proclamation infaillible de la part du peuple de Dieu, des évêques et de Saint-Pierre à l'époque.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'existence dans l'Église d'enseignements irréformables à la proposition pérenne, si vous voulez, et donc cette fonction d'enseignement qui n'est pas réservée justement à la hiérarchie ecclésiastique. Cette fonction d'enseignement, elle est la transmission et la conservation de ce qu'on transmet, et la transmission de ce qu'on conserve à travers toute l'histoire. C'est ce qui nous permet de dire que nous avons la même foi aujourd'hui, ensemble, nous partageons la même foi, et c'est ce qui nous permet de dire que la foi que nous partageons aujourd'hui est la même foi que celle que partageaient les apôtres. C'est une continuité et un partage dans la foi qui est assuré. Une unité à la fois dite synchronique et diachronique. Une unité réalisée, actuelle, et une unité dans le temps.
Est-ce à dire du coup que ça ne relève que de l'ordre de la foi, ce type de proclamation à l'époque du Concile Vatican a aussi été affirmé le principe que, en fait, par la raison humaine, tout homme peut quelque part approcher l'existence de Dieu. Enfin, on pourrait donner une citation plus précise. Foi et raison là-dedans, comment est-ce que ça s'articule ?
Ça veut dire qu'on ne doit pas, tenir, si vous voulez, l'idée que la doctrine de la foi puisse avoir des enseignements infaillibles comme une abdication de la raison devant la foi. Ça n'est pas une abdication de la raison, c'est une obéissance dans la foi. La recherche de Dieu par la raison seule est une possibilité, mais elle n'est pas une obligation. En revanche, pour un croyant, le fait d'accueillir ce contenu de la foi est une obligation. Et il ne peut l'accueillir, il ne peut s'en faire une obligation que par la foi. Il nous est impossible d'obliger un non-croyant à croire, si vous voulez. Par définition, l'acte de foi est un acte libre. Si vous faisiez de l'adhésion aux doctrines de la foi quelque chose auquel on peut accéder naturellement, vous donneriez obligation de croire. Or, on n'a pas obligation de croire, on a obligation de croire à partir du moment où on a choisi librement de croire. Voyez, l'obligation que me donne l'infaillibilité, elle est à l'intérieur d'une liberté. Alors que vous n'êtes pas libre de croire qu'il pleut quand il pleut ou que 2 et 2 font 4 quand vous connaissez les principes de la mathématique. Là, c'est vraiment une obligation. C'est souvent d'ailleurs le problème, c'est qu'on ne retient que l'obligation. On oublie que cette obligation, elle est insérée dans une liberté. Je suis libre de croire et ayant donné mon consentement, j'accueille ce contenu de la foi que je reçois avec obéissance. Mais c'est une obéissance qui s'exerce dans une liberté fondamentale.
Alors ça, c'est, on va dire, pour la mauvaise idée ou la difficulté qu'on a parfois, donc avec l'idée même de vérité. Maintenant, si on regarde un peu du côté des chrétiens, à vous entendre, donc qui est infaillible, en fait, c'est l'Église. Et parfois, on peut justement avoir une mauvaise compréhension, même quand on est chrétien, en fait, de ce dépôt, quelque part.
C'est l'Église comme corps mystique du Christ, si vous voulez. C'est comme corps dont la tête est le Christ et dont l'âme est l'Esprit Saint. Donc c'est la réalité mystique que représente l'Église, c'est la profondeur de son mystère. Ça, c'est pour le qui est infaillible. Et les individus ne sont jamais infaillibles dans l'Église. Évidemment, les individus eux-mêmes ne sont que des individus avec toutes les fragilités d'un individu. Ce sont des pécheurs qui se tournent vers Dieu et qui accueillent son œuvre de sanctification. Donc, nous ne nous disons pas infaillibles. Ce serait une arrogance terrible, ce serait une sorte de prise de possession sur la vérité. Et d'ailleurs, en rigueur de terme, nous ne devrions pas dire que nous possédons la vérité, mais nous devrions toujours dire que nous recevons la vérité, que nous accueillons la vérité. Nous ne transmettons jamais une vérité que l'on possède, mais une vérité qui nous oblige.
Alors juste, je reviens à une de mes questions du début, c'est qu'on se dit, mais pourquoi dans ces cas-là, à la fin du 19e siècle, parce qu'on imagine que dans votre livre, vous laissez entendre qu'il y a différents termes, irréformabilité, en plus d'infaillibilité ou inhérence, etc., que c'est donc un débat certainement qui a traversé au cœur de l'Église. Pourquoi à ce moment-là, fin du 19e, c'était un sujet qui traînait dans l'Église, pourquoi fallait-il en fait en faire un dogme tout simplement ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Et si vous interrogez Saint John Henry Newman, il vous aurait dit que c'était pas forcément une bonne idée. Il a été l'un des grands défenseurs du dogme de l'infaillibilité, mais au moment du débat sur l'infaillibilité, il n'était pas favorable à la définition du dogme de l'infaillibilité. D'ailleurs, la grande question, c'est à quoi sert ce dogme, puisqu'on finalement, on ne met pas en on ne le met pas en...
On l'utilise...
On ne l'utilise pas et il n'est pas réellement nécessaire en réalité. Le grand débat, c'est quelle est la nécessité. En effet, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a aucun problème, entre guillemets, hein, pour un croyant de l'accepter. Mais à quoi il sert finalement, puisqu'on peut réunir un concile, puisqu'on peut... Je pense qu'il est, le terme aussi d'une forme de mouvement de centralisation dans l'Église latine. Et donc, il traduit une ecclésiologie qui est de plus en plus centrée.
Ecclésiologie, pour ceux qui ne connaissent pas,
une conception de l'Église qui se ramène, donc un double mouvement qui se réduit de plus en plus à son magistère, c'est-à-dire au pape et aux évêques, c'est ça le magistère de l'Église, au fond à son pouvoir, et dans ce pouvoir, à la personne même du pape. Donc, indirectement, si vous voulez, même si la définition directement ne concerne pas l'individu, si vous voulez, elle contribue à revêtir cet individu d'un prestige considérable, et elle lui donne un rôle considérable. Donc, mais c'est un mouvement qui s'est développé tout au long de l'histoire de l'Église, à travers, au fond, l'infaillibilité vient comme parer la primauté du pape, sa primauté dans l'ordre du gouvernement.
Alors j'ai vu qu'il y avait deux autres circonstances depuis où cette question s'était posée.
Oui.
La première, c'est à l'occasion de la publication de l'encyclique Humanae Vitae en 1968. Oui. Alors il faut rappeler donc cette encyclique qui est donc qui revient, on va dire, sur la manière que peuvent avoir les couples d'accueillir la vie ou de réguler une naissance, d'utiliser des moyens de contraception, et qui dans l'Église avait fait énormément de, sujet de beaucoup d'incompréhension. On avait demandé au pape Paul VI d'engager l'infaillibilité de l'Église là-dessus, et il avait refusé. L'autre exemple, et puis je vous laisserai après commenter, c'est donc une lettre, semble-t-il, qui s'appelle Ordinatio Sacerdotalis, 1995, qui dit qu'en gros, seuls les hommes peuvent être ordonnés prêtres. Et là, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi aurait en fait indirectement engagé l'infaillibilité du pape sur ce sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur...
Alors, c'est des questions très... Vous me posez deux questions assez pointues. La première, c'est la question de savoir, c'est la question de l'objet de l'infaillibilité. Est-ce que, finalement, la question, au fond, la question de 1968, c'est est-ce qu'on peut utiliser les moyens de contraception artificiels ? Les moyens naturels de contraception sont autorisés. C'est pas la contraception, c'est pas la régulation des naissances, le contrôle des naissances qui est interdit, c'est le recours à des moyens artificiels. La question, c'est est-ce que l'Église va engager son infaillibilité ? Or, on s'est toujours accordé pour reconnaître que l'objet de l'infaillibilité, c'était la vérité révélée. C'était le dépôt de la révélation. Mais on y a ajouté aussi toutes les vérités, tous les enseignements qui sont intimement liés à la défense de ces vérités révélées. Et le débat, c'était de savoir quel est le statut, disons, d'un enseignement relatif à une espèce relatif à la raison naturelle, si vous voulez. On voit bien qu'on n'est pas dans l'ordre là de la foi sur cette question des moyens de contraception.
Parce que, excuse-moi, je précise ma question, c'est qu'en citant ces deux exemples, il y a derrière l'idée que les fidèles s'interrogent, ou parfois même à l'extérieur, jusqu'au journal Le Monde, se demandaient en fait où s'arrête cette infaillibilité. Est-ce qu'à chaque fois que le pape parle, ou quand il y a des encycliques,
c'est la question qui était sous-jacente. Bien sûr que non. L'infaillibilité personnelle du pape, non pas comme personne, mais qu'il peut engager personnellement, est extrêmement limitée. Ex cathedra, en matière de foi et de mœurs, dans les limites prévues par la définition de Vatican I. Donc là, évidemment, sur cette question d'humanae vitae, ceux qui ont dit c'est une doctrine infaillible ont été démentis par l'autorité ecclésiastique.
Alors le second sujet, quid, pourquoi est-ce que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi aurait indirectement engagé l'infaillibilité pontificale sans que le pape l'engage sur ce sujet de l'ordination uniquement des hommes?
Alors d'abord, c'est la question de l'argumentation qui est donnée. Souvent on dit l'ordination réservée aux hommes seuls. Non, l'Église répond à la question de savoir si on peut ordonner des femmes en disant l'Église ne peut pas ordonner de femmes. C'est l'impossibilité de l'ordination de femmes au nom de l'argument de tradition, si vous voulez.
Quel rapport avec la foi révélée là, dans ce... puisque vous disiez que c'est toujours de l'ordre de la révélation quand on engage.
Parce qu'on estime que c'est une pratique apostolique, que ça relève, que cette pratique de n'ordonner que des hommes est une pratique de la tradition apostolique, remonte à la tradition apostolique. C'est l'argument de tradition apostolique. Donc la période apostolique est la période de constitution du dépôt de la foi.
La période apostolique, c'est donc la période des premiers apôtres.
La période des apôtres. Et nous sommes dans la seconde période, qui est la période où nous recevons le dépôt apostolique, où nous interprétons. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, on considère que cette position-là, cet enseignement-là, est intimement lié, ce n'est pas une vérité révélée, attention, hein. Si vous n'y adhérez pas, vous n'êtes pas hérétique ou excommunié, mais vous avez un problème quand même de communion avec l'Église, mais c'est une vérité, c'est un enseignement qui est intimement lié au dépôt de la foi. Si on l'abandonnait, on mettrait en péril le dépôt de la foi. C'est ça que ça veut dire, c'est ce lien au nom de ce lien, si vous voulez.
Je vous propose, on va faire une deuxième pause et puis on va continuer la conversation. Peut-être redire qu'à l'époque, ça avait donné lieu à bien des polémiques et des interrogations. Vous disiez que ça avait pris 2-3 mois de discussion sur ce sujet, que c'était devenu le sujet presque du Concile Vatican I. Et aujourd'hui, parfois, à ce sujet, quant à la manière qu'on a de regarder l'autorité du pape, on peut aussi, dans l'Église, se diviser rapidement ou prendre prétexte que la parole du pape n'est pas infaillible sur tel ou tel sujet pour au moins l'écouter. Bref, de quoi encore discuter. Je rappelle le titre de votre livre, qui est L'infaillibilité pour l'Église, paru aux éditions Teki.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
qu'est-ce que l'infaillibilité pontificale ? C'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église en ce mercredi matin. Point d'interrogation avec comme invité Grégory Wembe, pour ceux qui nous rejoindraient, prêtre et vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Alors, avant qu'on... quand le pape François sort, par exemple, l'encyclique Fratelli Tutti, après avoir sorti notre encyclique sociale, Laudato Si, rapidement, au moins dans les médias chrétiens, on dit oui, mais est-ce une parole infaillible ? Donc en gros, quelle liberté puis-je avoir à l'égard de cette décision ou cette proclamation pontificale ? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Donc en 1870, vous nous avez dit donc que ça avait pris du temps, que ça avait été l'objet de bien des discussions. J'ai lu aussi qu'il y a même des délégations d'évêques qui sont partis avant le vote, prétextant parfois de la situation politique du pays. C'est par exemple le cas de la délégation française. Donc, pour rappel, c'était au moment de la déclaration de la guerre franco-prussienne. Donc, à l'époque déjà, c'était difficile. Difficile évidemment de ne pas être d'accord avec le pape. Mais qu'est-ce qui traversait en fait comme débat le collège épiscopal à l'occasion de ce concile?
Et c'est justement la relation entre le pape et les évêques, c'est-à-dire la question de la primauté et la question de la collégialité. Ce que le pape peut faire entre guillemets seul, ce qui est clair, c'est que les évêques ne peuvent rien faire sans le pape. La question, c'est est-ce que le pape, lui, peut faire beaucoup de choses sans les évêques ? Et c'est toute la querelle, mais qui s'est développée à l'époque du conciliarisme au XIVe siècle, sur la primauté du concile sur le pape seul ou la primauté du pape sur le concile. Ce qui est clair, c'est que le concile ne peut pas agir sans le pape. C'est que les décisions d'un concile doivent être promulguées par le pape. En revanche, la question là, c'était est-ce que le pape peut aller jusqu'à agir sans le concile ? Et je pense que il y avait à la fois cette idée, et c'est pour ça, si vous voulez, au fond. Nous, ce que nous reprochons, ce qui peut aujourd'hui dans la mentalité contemporaine faire problème, n'est pas ce qui faisait problème à l'époque. Ce qui faisait problème à l'époque, c'était la question de la relation entre l'Église de Rome et les diocèses et les épiscopats d'une manière générale. Alors qu'aujourd'hui, ce qui fait problème, c'est la possibilité pour l'Église de délivrer un enseignement irréformable. C'était pas là le problème. Ils étaient tous d'accord pour dire que l'Église pouvait enseigner de façon irréformable. Mais la question, c'était est-ce que le pape peut agir sans le concile ? Peut agir indépendamment des évêques réunis en union avec lui.
Alors aujourd'hui, si on pose les choses de manière un peu caricaturale, on a parfois des chrétiens qui sont les premiers défenseurs de cette infaillibilité pontificale et qui pour autant prennent prétexte que cette infaillibilité est très circonscrite pour ne pas entendre d'autres déclarations. Je pense que chacun aura compris. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire, on a vite fait de dire que ça ne concerne que certains sujets, pour le coup, comme ceux que vous avez cités. Alors, est-ce normal, docteur, aujourd'hui, que de continuer à avoir du mal à se positionner, ou est-ce que c'est désolant parce que dans le fond, on ne comprend toujours pas en fait de ce qui est infaillible, c'est-à-dire à vous entendre d'abord la foi.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que le pape lui-même insiste autant sur le sens de la foi des fidèles, sur la participation que tout baptisé reçoit par son baptême à l'office prophétique du Christ, c'est-à-dire au fond, il n'y a pas d'un côté une église enseignante et de l'autre une église enseignée, mais tous les fidèles du Christ sont à la fois enseignants et enseignés d'une certaine façon. On est tous à la fois enseignants et enseignés. On participe tous de la transmission de la foi.
Vous répondez ça parce que quelque part c'est le meilleur antidote à ces visions tronquées de...
Je pense que le meilleur antidote, c'est de rappeler que l'Église est une communion et que toute action de l'Église procède de la communion que l'Église est. Et que très souvent, nous avons une vision très mondaine de l'Église. De la même façon qu'aujourd'hui, nous avons une vision extrêmement divisée des sociétés, nous avons aussi une vision très divisée de l'Église en fonction de factions, de groupes d'intérêts, etc. Et je pense qu'en réalité, il faut partir de la nécessité de la communion et du principe de la communion. Au fond, c'est à partir de l'unité que tout prend son sens, c'est-à-dire que les fidèles les fidèles, les évêques qui sont aussi des fidèles du Christ, le pape qui est aussi un fidèle du Christ, que chacun, selon sa mission, participe au bien commun. Revenons à l'idée de charisme. Le charisme, c'est un don particulier, spécial, qui sert au bien commun. On ne peut jamais, un individu ne peut jamais se prévaloir d'un charisme à son propre service, d'une certaine façon. Tout charisme reçu l'est pour la totalité, l'est pour le bien commun.
Vous parlez du charisme qui est attaché quelque part à la personne de Pierre.
Oui, tout à fait. Ou le charisme d'un évêque, ou le charisme d'un chrétien par son baptême, le charisme baptismal est un charisme d'enseignement. Il est surtout le charisme pour accueillir la grâce, mais il apprend par la grâce qu'il reçoit, et il transmet la foi par la grâce qu'il reçoit. Donc c'est une approche différente par ce mystère de communion. Au fond, très souvent, nous réduisons la doctrine à des opinions. Et alors, quand on aime ces opinions, entre guillemets, quand cette doctrine rejoint nos opinions, on a tendance à majorer l'autorité, et quand ça ne nous plaît pas, on a tendance à en diminuer l'autorité. Ce qui fait d'ailleurs que les papolâtres changent de camp en permanence, et que les papolâtres d'un jour deviennent les haters du pape le lendemain. Ça dépend.
C'est flagrant entre Benoît XVI et le pape François, en tout cas.
C'est flagrant que tous ceux qui, d'une certaine façon, se réfugiaient derrière l'autorité du pape, aujourd'hui sont ceux qui plutôt remettent en cause l'autorité du pape. Donc en fait, mais c'est un tournant permanent, hein, parce qu'en fait, c'est une vision qui n'est pas ordonnée au bien commun, qui n'est pas en vue de l'unité, en vue de la communion, mais au service d'une faction, au service d'intérêts, au service d'une opinion. Les attitudes de division sont rarement... On divise rarement pour le bien commun. Jamais même.
Grégory Humbé, pour finir, à la fin de cette émission, j'aimerais qu'on parle peut-être du regard que portent les autres chrétiens sur cette infaillibilité pontificale, donc en l'occurrence donc des orthodoxes et de nos frères protestants. Vous avez utilisé un mot primauté pontificale. Donc, au moment du Concile Vatican I, il y a eu deux grands sujets, donc la question de la primauté et la question de l'infaillibilité. Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quoi ils sont distincts, et puis nous dire là où ça coince aujourd'hui encore sur ce sujet avec nos frères protestants et orthodoxes.
Alors, avec les orthodoxes, le problème...
Alors juste réexpliquer primauté, infaillibilité, c'est la
primauté,
différence.
C'est la primauté du pape qui découle de la primauté de Pierre. Hein, Pierre a la primauté, il est le chef du collège des apôtres, et son successeur, le pape successeur de Pierre, est le chef du collège des évêques. Il est l'épiscopus ecclésiae, comme dit Paul VI lorsqu'il signe les décrets, les actes du Concile Vatican II. Donc il est docteur de l'Église universelle. Alors, pour les orthodoxes, le problème n'est pas celui de reconnaître la primauté du successeur de Pierre, mais il la voit comme une primauté d'honneur, une présidence, si vous voulez. Un peu comme la présidence de la communion anglicane. L'archevêque de Canterbury préside à la communion anglicane, mais il n'a pas le pouvoir d'imposer à tel ou tel évêque, etc.
Donc ils ont plus de difficultés avec la primauté qu'avec l'infaillibilité, c'est ça qu'il faut entendre ?
Avec la primauté de juridiction, c'est-à-dire l'idée que le pape a une juridiction immédiate sur l'ensemble des évêques. Eux, ils ont une vision de l'Église particulière différente, hein, où les Églises sont indépendantes, sont autocéphales. Donc, pour eux, la primauté ne peut être qu'une primauté d'honneur, qui a du sens, hein, qui est importante, mais il représente, si vous voulez, l'unité, mais il n'est pas le pouvoir effectif de juridiction.
Et donc, pas de problème du côté de l'infaillibilité, d'une certaine manière.
Alors, il n'y a pas de problème du côté du charisme d'infaillibilité pour l'Église, mais évidemment, pour un orthodoxe, l'idée que le pape peut engager tout seul l'infaillibilité de l'Église en dehors d'un concile, non. Bien sûr, ils ont une vision plus synodale des choses. Donc le pape doit enseigner à travers un concile, à travers un synode.
Alors pour nos frères protestants, est-ce que c'est quelque part l'inverse un petit peu ou...
bah, Pour les protestants, la relation au pape historique est plus problématique, puisque pour Luther, le pape est l'antéchrist, il est le symbole de la Babylone dans l'Église. Donc la papauté, pour Luther, est l'obstacle à la réforme du christianisme et à la réforme de l'Église, et donc c'est une des murailles à abattre, hein, pour Luther. Donc évidemment, ils ont une vision beaucoup plus négative historiquement du pape. Et il considère que l'Église visible ne peut se prévaloir d'une infaillibilité dans l'enseignement. Aujourd'hui, je dirais que les protestants ont une vision beaucoup plus positive de la papauté comme d'un acteur d'une conscience spirituelle mondiale, comme d'un grand acteur des relations écuméniques, etc. Si vous voulez, au XXe siècle, le regard sur le pape a changé avec le déploiement à l'issue du Concile Vatican II de la perspective écuménique, de la politique écuménique des papes.
Alors, Grégory Wembe, dernière question, c'est que on sait que le pape François travaille et pas tout seul, donc il y a une forme de grande décentralisation dans la manière de gouverner l'Église, plus grande synodalité, comme on dit. Est-ce que ça peut avoir une incidence quelque part un jour sur cette infaillibilité qui a été proclamée il y a 150 ans ?
Une incidence sur la définition, non, mais certainement.
Et réduire les difficultés avec
une incidence sur l'incompréhension qu'elle provoque. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, c'est une définition qui n'est quasiment jamais mise en œuvre. Hein. En revanche, qui provoque beaucoup d'incompréhension. Paul VI disait, ou même Congaroth, reconnaissait qu'elle était une pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'elle est un objet de débat, un objet de contestation permanent. On est obligé d'expliquer ce qu'elle est vraiment. Quand vous êtes sans cesse obligé d'expliquer ce qu'une chose veut dire, c'est qu'il y a un problème d'une certaine façon. Donc certainement que le pape, à travers une pratique plus synodale de l'Église, veut résorber le problème de l'incompréhension qui touche autour de cette fixation sur la personne du pape, au fond. Sortir de cette attitude de relation puérile au pape, qui est indépendante de la définition de l'infaillibilité, c'est-à-dire cette espèce de fascination, ce mixte entre la papolatrie ou le fait de réduire l'Église à la vie du pape. On le voit bien d'ailleurs, hein, cette fascination pour le pape, cette fascination pour la curie, cette fascination pour le Vatican. On sent que l'Église se réduit finalement à 500 personnes qui vivent sur 44 hectares. Et ça, la papauté a contribué à cette médiatisation dès le XIXe siècle, à cette centralité. Et je pense que le pape veut que nous regardions un peu ailleurs, que l'Église, ça ne se réduit pas à ça, que l'Église, c'est une réalité universelle, catholique, justement, et que la romanité, enfin, que la catholicité ne se réduit pas à la romanité, mais que la romanité, au contraire, doit nous donner un regard sur la catholicité. Et je crois que c'est ce que le pape veut faire dans la suite de ses prédécesseurs, je dois dire, c'est-à-dire que par leurs voyages, par leurs encycliques, par leurs ouvertures intellectuelles, culturelles et relationnelles, on voit des papes qui nous invitent à regarder un peu ailleurs et pas simplement à nous concentrer sur 44 hectares, qui sont magnifiques, splendides, extraordinaires, mais qui ne nous disent pas toute la richesse de l'Église.
Et peut-être est-ce pour ça que cet anniversaire a été fêté aussi discrètement du côté de Rome.
Oui, certainement pour éviter à nouveau de réentrer dans ces débats un peu stériles et puis de nous inviter peut-être à considérer au-delà des richesses de l'Église. Vous savez, quand on parle des richesses de l'Église, on pense au musée du Vatican et à toutes ses œuvres d'art, pour passer à la richesse de l'Église, c'est-à-dire toute cette vie de foi d'hommes et de femmes à travers le monde.
Eh ben merci beaucoup Grégory Wembe de nous avoir entraînés sur ce chemin, j'allais dire périlleux, de l'infaillibilité pontificale. C'était pas gagné, mais grâce à vous, on a probablement compris ce qu'était un peu plus l'Église et ce qu'il y avait derrière donc ce dogme proclamé en juillet 1870. Un grand merci à vous. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, « Quelle infaillibilité pour l'Église » paru aux éditions Teki. Il faut préciser que c'est un livre exigeant malgré tout. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Jonathan. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h. Ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.